switchons. Quelques minutes pour réenchanter ensemble notre quotidien, interroger nos habitudes, revisiter nos réactions et vivre sous un angle nouveau pour être plus vivant et davantage en relation avec nous-mêmes, les autres et le monde. Un podcast proposé par Valérie Lebrun de Le Planque.
Lorsque j'étais au lycée, mon professeur de maths nous avait dit « Vous n'aurez jamais 20 sur 20 avec moi. Seul Dieu est parfait et peut avoir 20. » Donc moi, en tant que prof, moins parfait que Dieu, je peux au mieux avoir 19. Et vous, moins parfait que moi, vous auriez au mieux 18, même si tout est exact. À l'époque, j'ai trouvé que c'était une excellente excuse pour ne pas viser 20 sur 20 et je me suis empressée de l'annoncer à mes parents. Avec le recul, je trouve cette anecdote puissante car elle introduit la notion de perfection, potentiellement inatteignable, de normes, mais qui la définit, de jugement de soi-même et de l'autre, et de la relativité de la perfection d'une personne à l'autre. Voici la définition Larousse. Un niveau d'excellence et de qualité si élevé qu'il ne peut être surpassé ni amélioré. Exactement le sens utilisé par mon professeur de maths. Si l'on regarde à l'échelle mondiale, on sait que dans nos sociétés occidentales, la recherche de la perfection, largement relayée dans les médias, est bien présente dans de nombreux domaines. Et en Asie, encore plus présente concernant l'éducation et la réussite professionnelle, avec sa cohorte potentielle de dérive. Aux antipodes, on trouve les cultures africaines ou latino-américaines qui vont privilégier des valeurs familiales ou sociales, l'entraide, l'harmonie avec la nature, et voire même le plus grand que soi, plutôt que la recherche de perfection individuelle. De retour de notre côté du globe, être parfait a semblé si présent dans nos cultures qu'un psychologue, Eric Berne, père de l'analyse transactionnelle, l'a répertorié comme étant l'un de nos 5 moteurs, tout en évoquant les pièges. Et vous, où vous situez-vous sur cette échelle de recherche de la perfection? Quel synonyme donneriez-vous à ce mot? Quel ressenti en avez-vous? Et qu'est-ce qui vous pousse à chercher la perfection? Parmi vous, certains m'ont adressé des messages sur ce thème. Vous avez été nombreux à répondre sur vos motivations de recherche de perfection. Benoît nous parle de facteurs internes ou externes. Cela part de lui, comme son envie de se surpasser ou sa peur d'être critiqué ou exclu, ou cela vient de l'extérieur, comme la pression sociale ou des contraintes professionnelles. Nathalie distingue des motivations off, comme la peur de l'échec, du « qu'en dira-t-on », et entre des motivations on, comme le sens de l'effort, l'envie de faire plaisir. Olivier nous dit que son besoin d'être remarqué, valorisé ou de recevoir des compliments de son boss le pousse à faire mieux. Mélanie, une RH récemment coachée, pense que son exigence personnelle et son sens du devoir la poussent à vouloir être professionnellement exemplaire et irréprochable. Gauthier nous parle de son besoin de contrôle et de ses croyances sur sa propre valeur. Émile, quant à lui, a toujours besoin de se comparer aux autres pour faire mieux, et cet esprit de compétition le pousse toujours plus loin. Mais la recherche de perfection change de camp lorsqu'elle est incessante ou qu'elle s'exerce dans tous les domaines de la vie, ou lorsqu'elle est assortie d'irréalisme, d'exigences injustifiées vis-à-vis de soi-même ou les autres. Tout cela apporte de l'anxiété, de la frustration et du stress à soi-même ou à l'entourage. Cela peut aussi conduire à l'épuisement physique, mental ou émotionnel. C'est ainsi que Mélanie s'interdisait toute manifestation d'émotion ou de faiblesse, s'empêchant d'être complètement elle-même. Elle s'épuisait à être quelqu'un d'autre. Souvent, la quête de perfection est une idéalisation impossible à atteindre car il existe des imperfections inhérentes à chaque chose, chaque situation, chaque personne. Vince Lombardi, entraîneur de football américain, disait à ses joueurs « La perfection est inatteignable, mais si vous la cherchez, vous atteindrez l'excellence. » Et cette notion d'excellence ouvre la porte à déjà plus de tolérance et de singularité. Elle ouvre la porte à plus de place à l'autre et à sa perception de la perfection qui peut être différente de la mienne. La perfection fait alors place à la recherche d'amélioration. Et de plus en plus, nos sociétés occidentales valorisent aussi l'acceptation de soi dans toutes ses dimensions, dont les imperfections. Elles valorisent aussi l'apprentissage par l'erreur, le droit à la seconde chance et l'intérêt de la sortie de la zone de confort. L'imperfection devient alors partie intégrante de la nature humaine et l'on peut même en souligner la beauté. Ce sont ces imperfections qui rendent les individus uniques et intéressants. Merci à la haute couture de nous présenter Winnie Harlow, top modèle à la peau dépigmentée. Merci au cinéma de nous faire découvrir des acteurs atteints de trisomie ou d'autisme. Merci à Mélanie, notre RH ex-parfaite, qui sait maintenant faire preuve de réalisme et de sensibilité et qui a retrouvé estime et confiance en elle et dans les autres, et même de la sérénité. Merci au manager qui délègue ses tâches à ses collaborateurs pour les faire grandir, sachant que le même résultat ne sera pas atteint. Alain Ducasse, grand chef cuisinier aux multiples étoiles, nous dit que la perfection est pour les débutants, suggérant que lorsqu'on est au sommet de son art, on est dans sa singularité, révélant totalement qui l'on est, tout en maintenant son exigence. C'est ce qui a poussé aussi l'écrivain américain Colin Hightower à dire « Je ne suis pas imparfait, je suis personnalisé ». Et donc l'idée de faire de son mieux supplante l'idée d'être parfait ou de faire parfaitement. Déjà, le stoïcisme favorisait l'attention sur ce qui est sous notre contrôle et l'acceptation de ce qui ne l'est pas. L'humanisme a mis l'accent sur la croissance tout en respectant le bien commun, mettant de côté la compétition malveillante. L'approche de l'instant présent nous pousse à vivre pleinement en faisant de son mieux et introduit la notion d'intention positive et de possible erreur. Et dans l'optimalisme, l'erreur qui était impensable et inacceptable devient bénéfique et l'échec devient une expérience. Dans la pensée japonaise, wabi-sabi, dont la traduction est « la perfection imparfaite », on nous propose d'accepter et même d'apprécier la réalité telle qu'elle est. Cela va jusqu'à apprécier la beauté de nos rides. Beau programme, non ? Et maintenant, un exercice pratique. La sortie de la zone de confort et l'ouverture vers la zone d'évolution. On a souvent l'impression que la perfection vient du fait que l'on peut répéter une action amenant toujours le même résultat avec une qualité élevée et constante. Bref, on fait toujours un peu plus de la même chose en restant dans sa zone de confort. Choisissez maintenant une activité où vous excellez et apportez une difficulté nouvelle. Changez un ingrédient d'une recette, ajoutez une balle en jonglant, démarrez une course avec l'autre pied. Cherchez le bien-être de vos invités plutôt qu'un ensemble de détails parfaits. Certes, le résultat sera plus incertain, mais vous vous serez dépassé en intégrant vos peurs, vos frustrations et vos doutes, et même ceux des autres. Vous serez passé de votre zone de confort à la zone d'évolution, beaucoup plus enrichissante. Dans cette zone d'évolution, on accepte d'être faillible, sans perdre l'estime de soi, qui vient non pas du résultat, mais du chemin individuel parcouru. Dans cette zone, on change d'univers, on vit de nouveaux rêves et on trouve même un nouveau sens. Donc, choisissez l'activité et la nouvelle difficulté. Prenez conscience et notez plusieurs choses. La première, vos doutes et frustrations. Comment vous les avez surmontés ou pas? La deuxième, ce que vous avez appris de vous, les nouvelles qualités que vous avez développées. La troisième, les échecs qui sont devenus constructifs, car sans eux, vous n'auriez pas évolué. Et enfin, vos nouvelles pensées sur vous-même, et peut-être sur les autres et le monde. Faites tout cela en vous traitant comme votre meilleur ami le ferait, sûrement avec bienveillance. Faites-le en devenant votre meilleur ami, et non plus votre ennemi. Vous pourrez alors apprécier la beauté de l'imperfection du nouveau résultat. Vous pourrez apprécier en quoi votre singularité est puissante. Et quand tout ça est fait, je vous invite à choisir une autre activité et à faire la même chose. C'est ainsi que vous sortirez des pièges de la perfection. L'écrivaine Colette nous a dit « J'ai épousé la perfection et l'ai quittée le lendemain ». Alors, trouvez votre juste place entre les polarités de la perfection au laxisme, en passant par l'exigence, le réalisme ou l'indulgence, en tenant compte de la situation, en agissant au mieux dans une intention positive, en apprenant des erreurs et en consolidant la confiance en vous et dans les autres. C'est le programme que suggère Christophe André dans son livre « Imparfait et heureux ». Et pour finir, une anecdote. Vous connaissez peut-être la collection de livres pour enfants « Monsieur et Madame ». L'un des personnages s'appelle Monsieur Parfait. Un de ses amis lui dit pourtant « Je vous déteste, Monsieur Parfait. Vous savez pourquoi ?» Car vous avez un défaut, un seul, mais il est énorme et insupportable. Ah bon, lequel ? Demande Monsieur Parfait, toujours poli. Votre défaut, c'est de n'avoir aucun défaut.
À très bientôt pour un nouvel épisode de Switch On à retrouver sur impulsium.fr ou metropolis.com.